Comme vous le savez maintenant depuis quelque temps, je fais un suivi donc sur les objectifs, enfin en tout cas sur les valeurs de l'Église, avec la vision de l'Église, et j'ai abordé il y a quelque temps le sujet de l'évangélisation. Alors j'ai prêché sur la question « qu'est-ce que l'évangélisation ?» et j'ai donné un petit peu quelques lignes directives sur « qu'est-ce que l'évangélisation ?» Je pense qu'on sait ce que c'est d'évangéliser. Et je pense que là-dessus, même si parfois on fait des petits rappels de temps en temps, puisque bien souvent des prédications que nous faisons, c'est des choses que nous avons entendues depuis des années. Il y a bien sûr de nombreuses années qu'on m'a expliqué ce que c'était l'évangélisation. Assez rapidement, après ma conversion, on m'a expliqué assez rapidement que on avait reçu une vie et qu'à notre tour, nous devons transmettre une vie. Et je pense que quand on comprend cette affaire dans notre pensée, eh bien, on comprend l'ordre que le Seigneur nous a donné, cet ordre, ce grand ordre de mission qu'il a donné d'abord à ses disciples et qu'il nous a donné après par la suite, puisque nous sommes la continuité aujourd'hui de cet ordre de mission. Tout d'abord, le Seigneur a dit à ses disciples « Allez dans le monde ». Donc notre responsabilité, c'est d'aller. La deuxième responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Les disciples ont annoncé la bonne nouvelle, sinon vous ne seriez pas ici ce matin. S'il n'y aurait pas eu une continuité, plusieurs personnes sont venues à un moment donné vous parler de Jésus, et je pense que c'est juste la continuité de ce que les disciples ont continué à faire après l'ordre que le Seigneur leur avait donné. Baptiser ceux qui sont sauvés, nous continuons à le faire encore aujourd'hui, et de faire des disciples afin de transmettre dans la génération qui est après vous, eh bien, le fait qu'une personne qui est baptisée va grandir au sein d'une église et ensuite elle va faire ce que le Seigneur lui demande de faire au travers de la vie en Jésus-Christ. Mais il faut avouer, et il faut même le confesser, que nous ne mettons pas toujours en pratique ces quelques versets. Autant dans le sens individuel, je ne suis pas là pour porter un jugement, mais de faire un constat aujourd'hui au XXIe siècle, que autant individuellement que collectivement, on oublie un petit peu cette affaire d'aller dans le monde, d'annoncer la bonne nouvelle, de baptiser et de faire des disciples. Alors, je voudrais essayer d'aborder avec vous pourquoi au XXIe siècle, on a du mal à comprendre cette affaire d'évangéliser en tant qu'être humain. Eh bien, la question que je vais aborder aujourd'hui, c'est la question des obstacles à la proclamation de l'Évangile. Parce que bien souvent, on oublie que le diable est redoutable et que si le Seigneur permet des belles choses parfois dans les vies de, individuellement, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez entendu parler de Jésus à un moment donné, où on vous a dit de venir ici pour écouter le message de Jésus, mais en même temps, il faut reconnaître que évangéliser au XXIe siècle, eh bien, vous allez constater qu'il y a des obstacles à cela. Alors, le premier obstacle, c'est Satan. Et je pense que nous devons le montrer clairement dans la parole de Dieu, que Satan empêche tout d'abord les chrétiens d'évangéliser. La Bible nous aide à mieux comprendre pourquoi Satan se donne tant de mal et pour nous empêcher de proclamer l'Évangile. Tout d'abord, Satan, eh bien, c'est son propre Dieu. Dieu n'est pas son sauveur, il n'est pas son Seigneur. La Bible nous dit même que Dieu, à un moment donné, l'a précipité dans le séjour des morts. Ésaïe chapitre 14, verset 15. Parce qu'à un moment donné, il a voulu prendre la place de Dieu. Et en voulant prendre la place de Dieu, Dieu l'a précipité dans le séjour des morts. Cela montre bien qu'à un moment donné, Satan a un succès quelque part dans ce monde et il veut essayer de nous aveugler de diverses raisons. Mais je pense que nous devons comprendre pourquoi ce monde est aveuglé à l'Évangile. Tout d'abord, un texte que j'ai trouvé intéressant, et que je voudrais aborder avec vous, c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Et voici ce que Paul dit à l'église de Corinthe, qui est aussi valable pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Je répète ce verset, il est très important. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Notre monde est aveuglé. L'adversaire avance dans l'ombre. Il aveugle l'intelligence de ce monde. Et on le voit bien autour de nous. Le monde est vraiment aveuglé. Le monde est loin de Dieu. Le monde ne cherche pas Dieu. Le monde ne cherche pas un sauveur. Il cherche ses propres intérêts, mais il ne recherche pas Dieu. La Bible, si vous la connaissez comme moi, Romains chapitre 1, verset 21, nous dit que le monde est plongé dans les ténèbres. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le monde est plongé dans les ténèbres. Et pour des raisons pratiques, eh bien, Satan va tout faire pour que ce monde reste dans les ténèbres. Le diable a une motivation pour empêcher que nous puissions proclamer, nous, en tant l'Évangile. Tout d'abord, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que Satan fait? Je sais que mon Sauveur est auprès de Dieu, il intercède pour moi, mais à votre avis, qu'est-ce que Satan fait aujourd'hui? Ah, si vous connaissez la Bible, vous savez ce que Satan fait aujourd'hui. Hein? Job chapitre 1, verset 7. À un moment donné, Dieu lui pose la question, d'où tu viens? Et Satan va répondre, je parcourais la terre et je m'y promenais. Donc si, à l'époque, Satan parcourait la terre et s'y promenait, il fait toujours la même chose aujourd'hui. Satan se promène dans la terre, sur la terre, et à un tel point que c'est son ambition, c'est-à-dire qu'il veut que personne entende parler de l'Évangile. Que ce soit en France, Satan se promène en France, ça lui arrive de temps en temps. À l'heure actuelle, il se promène du côté de l'Algérie. Certaines églises se ferment là-bas, en Algérie. Il se sert des autorités pour fermer quelques églises protestantes en Algérie. Mais je me dis, nous sommes privilégiés, n'est-ce pas? Nous avons eu aussi, à un moment donné, Satan s'est promené en France. Dans le passé, certains chrétiens ne pouvaient pas se réunir dans certains lieux de culte. Vous savez, il n'y a qu'une Méditerranée qui nous sépare entre l'Algérie et la France. Ça peut arriver chez nous aussi, demain, que l'État décide de fermer quelques églises. Peut-être que le culte demain, ce sera devant la mairie de Marolles-sur-Seine, ce qui est le cas aujourd'hui pour certains chrétiens en Algérie. Vous voulez fermer les établissements? Eh bien, on va aller prêcher dans les rues. Mais est-ce qu'il nous faut la persécution pour comprendre la nécessité d'aller apporter l'Évangile aux personnes qui nous entourent? Je ne pense pas que la persécution est nécessaire. Je pense que nous devons simplement comprendre que ce monde, même s'il est dans les ténèbres, nous avons, nous, une responsabilité d'aller annoncer l'Évangile. La Bible nous donne cette directive, ce commandement, et nous, en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons apporter le royaume de lumière à ce monde de ténèbres. Nous devons apporter le royaume de ce monde de lumière, nous devons apporter le royaume de lumière dans ce monde de ténèbres. Dans cette salle, ou vous appartenez à Dieu et vous allez apporter le royaume de la lumière à ce monde, ou vous appartenez à Satan et vous êtes toujours dans le monde des ténèbres. Luc nous dit que, 11 verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Satan a de l'ambition. Il veut que ce monde reste dans le ténèbre. Satan a un avantage sur ce terrain. Il se promène. Dieu le laisse se promener sur ce terrain. Satan veut que nous restions aussi dans ce monde des ténèbres. Il veut nous perturber, je dirais, dans ce monde des ténèbres. Il veut que nous abandonnions dans ce monde des ténèbres. Il ne veut pas que nous persévérions dans ce monde des ténèbres. Cette semaine, mon épouse m'a envoyé une petite vidéo. En ce moment, on communique avec mon épouse par une petite vidéo. Ça a du bon, parfois, de communiquer avec la vidéo. Vous savez, cette vidéo, ce qu'elle dit, parce qu'elle montre, il y a une chèvre et il y a un bœuf. Alors, je ne sais pas où c'est qu'elle m'a situé, ma femme, si elle m'a considéré comme une chèvre ou comme un bœuf. Mais dans cette vidéo, vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez reçue, c'est Joël Toru, je crois, qui a envoyé cette vidéo à mon épouse, et mon épouse me l'a transmise pour que je sois, pour que je puisse persévérer, pour que je puisse avoir de la ténacité. Mais dans cette vidéo, vous avez une petite chèvre, mais alors vraiment une petite chèvre. Quand vous voyez le bœuf qui a à côté, vraiment c'est une petite chèvre. Eh bien, dans cette vidéo, c'est la chèvre qui gagne le bœuf. C'est pas merveilleux. Et pourtant, quand vous regardez cette vidéo, vous avez tête contre tête. Elle a persévéré, la chèvre. Et à un moment donné, elle a fait fuir le bœuf. Alors, cette vidéo parlait de persévérance, de ténacité. Et je pense que nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de persévérance et de ténacité dans ce monde de ténèbres. Nous devons rester en vie dans ce monde de ténèbres. Et ce n'est pas toujours facile de rester en vie. Le monde se plaît aujourd'hui à nous déstabiliser, à nous faire perdre pied parfois. Et Satan emploie les grands moyens. Vous pensez que pour lui c'est une partie de promenade? Éloignez-vous de votre esprit cela. Si Dieu le laisse encore quelque temps sur cette terre, c'est pour aveugler l'intelligence des êtres humains qui nous entourent, pour que les êtres humains ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Et il va employer les grands moyens. Mais la Bible vous donne aussi un encouragement. La bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier et à toutes les nations. La bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier et à toutes les nations. Voilà ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. J'ai regardé un petit peu quelques chiffres. Savez-vous que la Bible aujourd'hui, ou en traduction de la Bible, ou quelques portions de Bible, elle est traduite à l'heure actuelle à 96%. C'est-à-dire que vous pouvez trouver le monde, plus ou moins, d'accord, peut trouver une Bible dans sa langue, dans son dialecte, ou dans sa langue natale, à 96%. Vous avez environ 6912 langues parlées dans le monde. Et à l'heure actuelle, en 2018, la société biblique a dit que vous avez à peu près 3324 Bibles, portions de Bible qui a été traduite pour que le monde puisse entendre parler de Jésus. La Bible dit que cela doit servir pour nous de lumière, parce que tout le monde aura entendu parler de Jésus. La Bible dit que Matthieu 24, verset 14, alors viendra la fin. Tant que nous n'avons pas atteint les 100%, la Bible donne la possibilité à ce monde de ténèbres de se tourner à la lumière. Je voudrais vous montrer un verset que Satan connaît. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous, mais Satan connaît très bien ce verset. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Voici ce qu'il est dit. « Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et il rejoignit la bête et les faux prophètes, et ils subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. » Le diable connaît ce verset de la Bible. Le diable le connaît. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais le diable le connaît très bien. Le diable sait qu'un jour il va être jeté dans les temps de feu. Satan, Dieu lui a dit, c'est clair? Dieu lui a dit, à un moment donné, tu seras vaincu. J'ai eu la victoire sur la croix, mais j'aurai aussi la victoire sur ta personne à un moment donné. Et le diable connaît ce verset, et nous aussi nous devrions nous en inspirer pour nous lever le matin et de prier pour les personnes qui nous entourent, ceux qui sont dans les ténèbres. Je voudrais vous montrer un petit peu que le diable parfois nous déstabilise dans ce monde. Il a déstabilisé les chrétiens du démarrage. Je ne vois pas pourquoi il ne nous déstabiliserait pas aussi à nous, aujourd'hui au 21e siècle. Étienne, la Bible nous dit qu'il a été lapidé. Jean-Baptiste, la tête lui a été coupée en deux. On lui a coupé la tête. Philippe, l'évangéliste que vous trouvez dans les livres des Actes des Apôtres, a été lapidé en l'an 54 après Jésus-Christ. Paul a été décapité à Rome en l'an 69 après Jésus-Christ. Pierre a été crucifié, la tête en bas, nous dit la tradition, à Rome dans les années 69 après Jésus-Christ. Matthieu, celui qui a écrit l'Évangile, a été décapité en Éthiopie en 70 après Jésus-Christ. Barnabas, celui qui a accompagné Paul, a été brûlé à Chypre en l'an 64 après Jésus-Christ. Marc, il est mort, mis à mort à Alexandrie en 1964. Je me dis, le diable quand même a un certain pouvoir, et nous devons constater que parfois, le diable veut déstabiliser l'Église et veut nous déstabiliser en nous annonçant, je dirais qu'il nous dit quelque part, c'est inutile d'aller évangéliser. Parce que si tu vas évangéliser, eh bien, je vais te tuer, je vais te faire peur, je vais te bousculer dans ta vie, mais je pense que notre responsabilité est d'aller annoncer l'Évangile, de proclamer sans cesse l'Évangile. Je voudrais prendre deux versets dans la Bible où c'est l'apôtre Paul qui parle. Actes chapitre 20, verset 24. « Ma vie m'importe peu, disait Paul. » Je ne sais pas si on peut dire ça aujourd'hui, au 21e siècle. « Ma vie m'importe peu. Je lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Waouh ! On devrait s'en inspirer, n'est-ce pas ? C'est quelque part un témoignage fort de la part de l'apôtre Paul. « Ma vie m'importe peu. L'essentiel, c'est que j'annonce la bonne nouvelle. » Et Dieu s'en est servi, hein. Cet homme qui a parcouru toute la Méditerranée avec certains frères et sœurs de l'époque, eh bien, grâce à lui, beaucoup d'églises ont été formées. Grâce à lui, beaucoup de personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Grâce à lui, beaucoup d'églises encore peuvent dire que si j'ai accepté Jésus, c'est grâce à lui. Je t'ai choisi du milieu de ton peuple juif et des païens vers lequel je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et leur faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Voilà ce que Paul était en train de dire devant le roi Agrippa. En témoignant de sa foi, il a dit à un moment donné que Dieu l'a choisi dans ce peuple juif pour aller annoncer l'évangile aux païens. Et il faisait pas de tri, Paul. Hein. Paul a su parler à des rois, Paul a su parler à des geôliers, Paul a su parler à toutes les personnes que le Seigneur, sur son chemin, lui a mis pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Deuxième obstacle. Je vous ai montré que parfois, Dieu aveugle, c'est vrai, le monde qui nous entoure. Et le monde est bien aveuglé, faut bien l'avouer. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe dans notre société, quand je vois un petit peu ce que nous regardons parfois à la télévision, quand je vois un petit peu ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, le monde est vraiment aveuglé. Il ne va pas aller de mieux en mieux, comme certains le croient. Si je nettoie la planète, tout ira mieux demain. Mais franchement, la planète, elle est déjà condamnée par Dieu. Hein. Vous pouvez la nettoyer, la planète, si vous voulez. Hein. Elle est vouée à la destruction, cette planète. Qu'on nettoie ou qu'on nettoie pas, je pense qu'on l'a bien salie, humainement parlant. Alors c'est vrai qu'on peut faire des efforts, on peut la rallonger un petit peu, la vie de cette planète, mais Dieu l'a déjà vouée à la destruction. Notre responsabilité, c'est pas de nettoyer la planète, c'est de nettoyer les cœurs, de parler de Jésus-Christ. Et je pense que ça a plus d'importance aux yeux de Dieu qu'aux yeux des hommes. Hein. Voici quelques capacités d'aveuglement du diable. Satan aveugle les non-chrétiens afin qu'ils ne saisissent pas l'évangile. Je vous en ai parlé. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Mais vous savez, des fois, je ne sais pas, il suffit de parler avec une personne qui ne connaît pas Jésus. Parler avec une personne qui ne connaît pas Jésus. Moi, un jour, on m'a dit, les yeux dans les yeux, on ira tous au paradis. J'ai dit, elle a dû entendre Paul Naref, qui est passé par là, qui a dû lui chanter à un moment donné cette chanson, on ira tous au paradis. C'est faux. La Bible dit clairement que tout le monde n'ira pas au paradis. Aujourd'hui, Satan se plaît à dire à cette humanité, qu'importe ma vie, ce que je peux faire ici-bas, sur cette terre, de toute façon, j'irai au paradis. C'est faux. Et nous devons le dire aux personnes qui nous entourent. Nous devons dire à nos amis, nous devons dire à nos parents, nous devons dire à ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, que tout le monde n'ira pas au paradis. Oui, le paradis, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans leur cœur, dans votre cœur, vous irez au paradis. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, et si vous luttez encore aujourd'hui avec cette affaire, la Bible dit clairement, c'est aujourd'hui le salut. C'est aujourd'hui le salut, il frappe à votre porte. Et c'est aujourd'hui qu'il faut mettre votre vie en règle. On n'ira pas tous au paradis. La réalité de l'enfer discuté avec certaines personnes qui n'ont pas Jésus-Christ. L'enfer, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais l'enfer, mais Dieu est amour, comment Dieu peut-il créer l'enfer? Ben oui, avec un discours comme cela, l'enfer ne peut pas exister. Moi, quand je vois à nos enfants ce qu'on leur donne sous prétexte de certains bonbons aujourd'hui, qu'on nous met dans notre cervelle parfois cette affaire d'Halloween, mais on devrait l'interdire dans ce pays, Halloween. Alors on dit souvent que beaucoup de choses viennent des États-Unis, mais on devrait apprendre à rejeter certaines choses à la mer. C'est pas parce que ça vient des États-Unis que c'est bon. C'est pas parce que ça vient de l'extérieur que c'est bon. On devrait apprendre à rejeter cela. Le sacrifice de Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés. Certaines personnes vous diront, mais j'ai pas besoin de Jésus, moi. J'irai au paradis de toute façon, j'ai pas besoin d'un sauveur. J'ai pas besoin de Jésus. Et pourtant la Bible dit clairement, sans Jésus, point de salut. Je fais des bonnes œuvres, je serai sauvé. J'entends ça tous les jours. J'ai pas tué, moi. J'ai pas volé. J'ai fait que du bien. Donc Dieu va être attentif à ma vie à un moment donné. Ouais. Un petit mensonge, tu l'as peut-être dit déjà, non? Tu as peut-être volé un bonbon à un moment donné. La Bible dit clairement que nul ne sera sauvé par les bonnes œuvres. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas se présenter au ciel en disant, si je suis ici, c'est grâce à moi. Si je suis ici, devant toi, Seigneur, c'est grâce à moi. Parce que j'avais le portefeuille bien plein et j'ai distribué mon argent aux personnes qui avaient du mal sur cette terre. Bon, c'est vrai que des fois j'ai distribué des bonbons, mais parce que j'avais pas d'argent dans mon portefeuille. Mais j'avais un bonbon, mais le fait il est que bien souvent, beaucoup d'êtres humains pensent cela, qui seront sauvés par les bonnes œuvres, par les bonnes actions que ils vont faire ici-bas, sur cette terre. C'est un aveuglement de la part de Satan. On n'est pas sauvé par les œuvres et nul ne pourra se présenter devant Dieu par les bonnes œuvres. Satan aveugle parfois les non-chrétiens dans la réalité de ce qui les concerne. C'est-à-dire que ils disent, l'être humain dit aujourd'hui, on peut prolonger la vie. J'aime beaucoup cette affaire-là. Cette affaire que y a, les pharmacies aujourd'hui sont, mais c'est des milliards que les gens rapportent. Vous prenez quelques cachetons, excusez-moi de l'expression, et puis vous allez rallonger votre vie. J'ai lu, j'ai entendu récemment un article qui disait que beaucoup de ces cachetons, pour parler ce que c'est un cachet, bien souvent n'ont aucun effet en vous. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de visiter un chrétien aux États-Unis, et puis il avait de la bonne nourriture sur la table, mais en même temps, il avait une foule de boîtes. Et dans cette foule de boîtes, alors, il y avait pour le stress, il y avait pour mieux dormir, il y avait ceci, il y avait cela. Beaucoup de scientifiques disent aujourd'hui que ça n'a aucun effet. Il y a juste l'effet de les prendre et d'enrichir certaines grosses entreprises parce qu'ils ont fabriqué ces produits à un moment donné, mais ils n'ont aucun effet. Quand Dieu a décidé que la vie s'est terminée, c'est terminé. Alors vous ne connaissez peut-être pas la date de votre départ pour l'éternité, Dieu la connaît. Et des fois, vous savez, la vie est brève. Des fois, la vie est courte. Certains pensent que quand j'arriverai à la retraite, je vais faire ceci et cela. Il y en a un qui disait ça il y a quelques années, un voisin, juste en face de chez nous. Il pensait quand il arriverait à la retraite, il pourrait faire du vélo. Le lendemain de sa retraite, une crise cardiaque. Il est tombé dans le caniveau. Le lendemain de sa retraite, il valait mieux qu'il fasse du vélo avant que d'arriver à la retraite. La vie est brève, elle est courte. Certaines personnes pensent que la vie c'est 80 cm, 80 ans. Si Dieu vous accorde la vie, 80 ans, c'est court. C'est vrai que l'être humain pense qu'on va vivre de plus en plus longtemps. On verra. On verra. La gravité du péché, c'est pas du tout pris en considération aujourd'hui. Vous savez, quand on regarde certaines séries, certains films aujourd'hui, la gravité du péché n'est pas du tout prise en compte. C'est normal, certaines choses qui se font aujourd'hui. Mais la Bible dit clairement qu'un jour, toute personne aura des comptes à rendre devant Dieu. Parce que un jour viendra le jugement. Et le jour qu'ils vont se présenter devant le Seigneur, eh bien, ils devront rendre des comptes à Dieu. Satan a plein de fèves dans cette humanité. C'est un pasteur du XVIIIe siècle, Roland Hill, qui donne une excellente illustration par rapport à ces fèves. Un jour qu'il marchait dans la rue, il vit un troupeau de cochons suivre un homme. Cela l'a tellement excité sa curiosité qu'il va décider de suivre cet homme. À sa grande surprise, il va voir que tous les cochons vont rentrer dans son abattoir. Alors ce pasteur est allé voir cet homme et lui a dit: « Mais mon ami, comment avez-vous fait pour que ces cochons vous suivent jusqu'ici ?» Et la réponse de cet homme lui a dit: « J'avais un panier de fèves sous le bras et j'en ai laissé tomber au fur et à mesure du trajet et ils m'ont suivi. » Satan a un panier rempli de fèves pour cette humanité, pour pas qu'on suive la lumière. Et vous savez, vous avez des tas de fèves que Satan parfois nous propose, même à nous en tant que chrétiens. Parlons-en un petit peu de ces fèves. Le matérialisme, ça ne nous éloigne pas de Dieu, ça, dans nos vies parfois. Alors je ne vous encourage pas à rouler avec une trottinette, d'abandonner la voiture et de vous acheter une trottinette. C'est plus dangereux aujourd'hui d'être avec une voiture, moins dangereux d'être avec une voiture que d'être avec une trottinette. Mais franchement, le matérialisme aujourd'hui nous dépasse un petit peu et on a besoin un petit peu de revenir un peu à la réalité parfois. L'argent et les biens matériels, vous savez, ça motive beaucoup d'êtres humains, ça. Quand on parle de l'argent, un jour j'ai entendu un chrétien psychologue dans le sud de la France qui avait affaire avec un gars de l'armée. Et le gars de l'armée lui disait à un moment donné: « Mais pourquoi tu cherches l'ambition dans l'armée ?» Et le gars lui a dit: « Non, c'est pour l'argent, hein. Parce que si je monte de grade, j'aurai 100 euros de plus sur mon salaire. » Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, c'est leur ambition, hein. Quand ils se lèvent, c'est le pognon, hein, et rien que le pognon, hein. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont un ordinateur devant eux et c'est les chiffres qui parlent. Si les chiffres parlent mal, ah, ils vont vous embêter, hein. Par contre, si les chiffres parlent bien, ils vont vous casser les pieds pour qu'ils parlent encore mieux. Les jeux de hasard. Parlons-en des jeux de hasard. Il y a certains chrétiens qui m'a dit un jour: j'attends de gagner au loto et ça va tout changer dans ma vie. Dans les jeux de hasard, il y a le mot hasard. Moi j'aime bien le jeu, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé de jouer, mais dans le mot, il y a hasard, c'est du hasard. Si Dieu veut que vous soyez riche, il n'y a pas besoin de jeu de hasard. Il vous donnera ce qu'il faudra à un moment donné. Mais combien de choses comme cela nous éloignent parfois de Dieu ? Combien ces fèves parfois nous disent: « Ah ben oui, si je gagne l'auto demain, je donnerai plus à la mission. » Donnez à la mission. N'attendez pas que vous gagnez de l'argent pour donner à la mission, hein. C'est un jeu de hasard. Donc vous n'êtes pas sûr de gagner. Le pourcentage est très petit pour que vous puissiez pas gagner. Par contre, aujourd'hui, celle qui gagne, c'est la Française des Jeux. Pour ne pas faire de la publicité, c'est elle qui gagne aujourd'hui. Elle gagne des milliards. D'autres faibles qui nous éloignent de Dieu. Le sexe, avec la pornographie, la pédophilie, l'adultère, les mariages homme-homme, femme-femme. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu. C'est des fèves qui nous remplissent le ventre aujourd'hui, mais qui nous éloignent complètement de Dieu. Tout ce qui peut me rendre orgueilleux peut m'éloigner aussi de Dieu. Les fausses religions peuvent m'éloigner aussi de Dieu. Oui, ces fèves ont rempli l'estomac de beaucoup de personnes dans ce monde et n'ont pas eu la vie éternelle. Je pense que nous devons prendre conscience de ces obstacles. Satan se plaît à arracher la semence. Luc chapitre 8, versets 12, 11 et 12, qui nous dit « Et la semence, c'est la parole de Dieu au bord du chemin. Ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. » Ça peut, n'est-ce pas, nous décourager quand on écoute ce genre de versets, de se dire « Tiens, j'ai semé un verset, j'ai semé une parole, j'ai semé un évangile, j'ai semé une Bible, j'ai semé un Nouveau Testament, j'ai semé un témoignage auprès des personnes qui m'entourent. » Mais tout cela n'a pas été fait dans un but de vous décourager. Tout cela a été fait dans un but que nous devons prendre conscience individuellement et collectivement que Satan est vaincu. Satan est fini. Si nous puissions comprendre que quelques instants, simplement ce matin, que Satan c'est fini pour lui, un jour il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Il n'a pas eu la victoire, c'est Jésus-Christ qui a eu la victoire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions apprendre à témoigner de Jésus-Christ là où c'est que le Seigneur nous a placés. Jésus a dit « Je suis venu chercher et sauver les perdus ». Notre responsabilité, c'est d'aller et chercher les perdus. L'apôtre Paul a dit « Je me suis fait tout à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Je me suis fait tout à tout. Votre boulangère, elle est gentille, donnez-lui un traité. Vous avez un bon contact avec votre voisin, donnez-lui un évangile. Ce que vous semez aura à un moment donné une répercussion dans le cœur des personnes. Notre responsabilité, c'est de gagner des âmes. Alors, c'est un grand mot, gagner des âmes. Et on le verra la semaine prochaine, mais dans la Bible, je vois la parabole de la brebis perdue. Vous connaissez la parabole de la brebis perdue? C'était la brebis qui s'est éloignée à un moment donné du troupeau. Mais Jésus s'est déplacé pour aller la chercher. Et peut-être que nous avons besoin de nous apprendre aussi dans notre quotidien que parfois le Seigneur nous demande de nous déplacer pour aller chercher les perdus. Ça demande parfois de l'énergie, ça demande parfois un temps, ça demande parfois de la volonté pour aller chercher les perdus. Alors bien sûr que je voudrais vous encourager ce matin, et j'espère vous avoir encouragé, que nous puissions prendre conscience en tant qu'Église et en tant qu'individu la nécessité d'apporter l'Évangile à ce monde qui se perd. Que nous puissions le comprendre durant cette semaine, que ce que vous faites pour le Seigneur, vous le faites pour l'éternité. Et c'est ce qui est le plus important. Amen. Une promesse. Je vais terminer avec une promesse. Je voudrais qu'elle vous accompagne durant la semaine. Alors, je ne sais pas ce que vous en faites. Des fois, j'oublie. Alors,
J'espère que cela vous l'oublierez pas. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous aide et vous encourage au travers de cette prédication et de cette promesse aujourd'hui. Je vais finir par la prière. Juste avant de terminer, je voudrais dire au long cours et au calembo, on va se mettre de côté un petit peu, quelques minutes, pour décider de la date pour la présentation. D'accord ? Qu'on voit un petit peu d'une date ensemble. Parce que je m'en vais cet après-midi dans le sud de la France. Je vais aller chercher le soleil. 4 jours, après je reviens, ne vous inquiétez pas. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que nous venons d'avoir. C'est vrai que Satan est redoutable. C'est vrai que Satan aveugle l'être humain. Mais en même temps, Seigneur, nous avons la lumière de la vie. Et ça, c'est plus important. Et je trouve aussi, Seigneur, que Satan a été vaincu sur la croix. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, que nous puissions persévérer dans l'aspect individuel, que semer ne nous décourage pas. Mais ce que nous semons, Seigneur, c'est pour l'éternité. Un jour, il y aura un fruit, c'est sûr. Et même si on ne le voit pas immédiatement, le fruit, il se verra sûrement dans l'éternité. Parce que sûrement dans l'éternité, quelqu'un nous dira, si je suis ici, c'est grâce à toi. Et Seigneur, je veux vraiment remercier ce matin ces hommes et ces femmes qui sont passés avant nous et qui nous ont parlé de Jésus-Christ. En tant qu'Église, nous devons parler de Jésus-Christ, là où c'est que tu nous as placés. Que ce soit auprès de nos familles, que ce soit auprès de nos collègues de travail, que ce soit là où c'est que tu nous as placés, Seigneur, nous devons parler de toi. Alors que nous puissions le faire avec sagesse, avec discernement, que nous puissions partager de Jésus-Christ là où c'est que tu nous as placés, et que ton nom soit glorifié au travers de cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce culte est maintenant terminé. Que le Seigneur vous bénisse.